Chapitre 19. Second résultat du vol. L'historique de mes faits et gestes pendant mon séjour à Paris peut se résumer en quelques mots. Il n'y a, parmi tous les incidents qui se rattachent dans mon esprit au sujet qui m'y amenait, qu'un détail sur lequel je veuille m'appesantir. L'affaire avait cette fois un aspect des plus graves. La vénérable victime de notre intrigante avait poussé la fatuité jusqu'à renouveler ses dents, ses cheveux, son teint, et se redresser la taille au moyen d'un corset. Il portait un cachet de jeunesse si exagéré que j'eus peine à le reconnaître. J'eus beau user de toute mon influence sur lui, il m'embrassa avec une affection touchante, exprima les sentiments les plus nobles, mais rien ne put ébranler sa résolution de se marier. Le mariage ou la mort, tel était le programme de l'inflammable vieillard. Ce qu'il y avait de plus décourageant, c'est que le susdit objet avait eu l'adresse de jouer tous ses atouts dès le début. Cette femme s'était retranchée dans une position inexpugnable. Elle nous laissait parfaitement libres de rompre le mariage si nous le pouvions. Faites comprendre à votre père que je ne veux pas l'épouser si ses filles s'y opposent et qu'il n'a qu'à dire ces deux mots « quittez-moi » pour que je lui rende à l'instant sa liberté. Comment détruire un pareil système? Nous savions aussi bien qu'elle que notre père, devenu son esclave, ne dirait jamais les deux mots dont elle parlait. Il ne nous restait qu'une ressource, celle d'éplucher les antécédents de la dame et de fournir à mon père des preuves si évidentes qu'il avait affaire à une femme de mœurs légère que le vieillard ne pourrait, tout engoué qu'il était, en nier l'authenticité. Grâce à notre argent et à nos recherches, au bout d'une quinzaine, nous avions en main tout ce qu'il fallait pour ouvrir les yeux de notre excellent père. Ayant arraché papa du bord de l'abîme, son 20e abîme, si je puis m'exprimer ainsi, je sentis la nécessité de rester quelques jours de plus à Paris pour le consoler de ce sauvetage opéré malgré lui. Si vous aviez vu comme il souffrait, il grinçait des dents, non, de ce râtelier qui lui avait coûté si cher, veux-je dire. Il s'arrachait cette chevelure confectionnée avec tant d'art. Je crois qu'il aurait fini par faire éclater son corset tout neuf si je n'avais pris la précaution de le lui enlever pour le vendre. On m'en donna la moitié de ce qu'il avait coûté et ce léger bénéfice fut tout ce que nous eûmes pour nous récupérer des dépenses que nous avions été forcés de faire, mes sœurs et moi, dans cette malheureuse affaire. Nous correspondions toujours, Lucille et moi. Ces lettres, courtes et attristées, me dépeignaient le malheureux état où en étaient les choses à Dymchurch. Les attaques d'Oscar étaient devenues plus fréquentes et avaient augmenté d'intensité. J'écrivis à Lucille, sitôt que j'eus accompli ce qui m'amenait, pour lui relever un peu le moral en lui apprenant mon prochain retour. Deux jours avant mon départ, je reçus d'elle une nouvelle lettre. Comme nous devions nous trouver réunis à très courte échéance, je tremblais qu'elle n'eût quelque chose d'extraordinaire à me communiquer. J'appréhendais même quelques mauvaises nouvelles. J'eus enfin le courage d'ouvrir cette lettre. « Ah, pauvres sots que nous sommes! Pour une fois que nos pressentiments se réalisent, nous nous trompons 100 fois. » Loin de m'affliger, cette lettre me causa le plus vif plaisir. Elle m'annonçait que notre sombre horizon commençait à s'éclaircir. Ma chère Lucille m'écrivait d'une grande écriture d'enfant et en tenant la main qui tenait la plume de l'autre. Chère sœur et amie, je ne saurais attendre votre retour pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons remplacé le médecin de Brighton par un de ses collègues de Londres. Il n'y a que la capitale pour produire des hommes aussi éminents. Notre nouveau docteur examine, réfléchit et nous donne séance tenante sa décision. Il a un traitement particulier et répond de la guérison d'Oscar. J'espère que voilà ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle. Revenez au plus vite, ne fût-ce que pour en sauter de joie avec moi. J'ai eu tort de douter de l'avenir, mais cela ne m'arrivera plus. Je m'aperçois que je viens de composer la plus longue épître que j'ai jamais écrite. Votre Lucille qui vous aime. Il y avait écrit de la main d'Oscar en post-scriptum. Lucille vous annonce que je puis enfin espérer. Je vous écris à son insu et ce que je vais vous dire doit rester entre nous. Venez me voir au sable à la première occasion que vous trouverez et sans que Lucille en sache rien. J'ai à vous demander une grande grâce et mon bonheur en dépend. Je vous dirai ce que c'est lorsque vous viendrez me voir. Oscar. Ce post-scriptum intrigua fort. Il était en contradiction avec la confiance absolue d'Oscar en Lucille, confiance que j'avais déjà remarquée. Les termes dans lesquels il était conçu juraient, selon moi, avec le caractère d'Oscar qui me semblait tout autre que réservé et méfiant. Il est vrai qu'il nous avait caché son nom lors de notre première rencontre, mais c'était par suite de l'horreur qu'il éprouvait d'être reconnu comme le héros du procès que j'ai raconté. Mais il péchait plutôt, dans les relations ordinaires de la vie, par un excès de franchise. Qu'il eût à me révéler un secret qu'il cachait à Lucille dépassait les bornes de mon intelligence. Ma curiosité augmenta mon désir de revenir à Dymchurch. Ayant réglé toutes mes affaires et fait mes adieux à mon père et à mes sœurs, je quittai enfin Paris le 24 et j'arrivai à Dymchurch à temps, la veille de Noël. La première heure du jour de Noël venait de sonner à la pendule de notre petit boudoir lorsque je pus enfin m'arracher à Lucille pour aller me reposer des fatigues de mon voyage. Elle était redevenue la jeune fille gaie et insouciante que j'avais connue dans de meilleures circonstances, et elle avait tant de choses à me raconter que son père lui-même, si verbeux pourtant, n'aurait pu lutter avec elle. Mais le lendemain, elle fut punie de s'être agitée outre mesure, et je la trouvai souffrant d'un mal de tête et incapable de se lever à son heure habituelle. Elle me proposa d'aller rendre ma première visite à Oscar, ce qui soulagea, je l'avoue, ma conscience, qui fut restée fort tranquille si j'avais eu affaire à toute autre jeune fille que la pauvre aveugle que je chérissais. J'avais une répugnance invincible à profiter de son infirmité pour la tromper, même dans les choses les plus insignifiantes. Je partis donc, au su de Lucille et de son plein consentement, pour aller rendre visite à Oscar. Je le trouvai agité, inquiet, prêt à s'emporter à la moindre provocation. Je ne retrouvai chez le préféré de Lucille aucune trace de cette ancienne gaieté qui était revenue à la jeune fille. « Lucille, vous a-t-elle parlé de mon nouveau médecin ?» me dit-il tout d'abord. « Oui, elle m'a dit qu'elle avait en lui la plus grande confiance et qu'elle le croit quand il affirme qu'il vous guérira. » A-t-elle manifesté quelque désir de savoir quels seraient les moyens qu'il emploierait pour opérer cette cure ? Non, elle s'est contentée de savoir que vous seriez débarrassé et elle laisse le reste au médecin. Cette réponse parut soulager l'anxiété d'Oscar. Il soupira et s'étendit sur sa chaise. « C'est bien, dit-il en se parlant tout haut à lui-même. Je suis content de ce que vous me dites. » Le docteur fait donc un secret du traitement qu'il va vous faire suivre. Un secret, non, excepté pour Lucille, dit-il gravement. Elle ne doit pas le connaître et il faut la maintenir dans une ignorance complète. Sachant que vous seul possédez quelque influence sur elle, je compte sur vous pour me seconder. Est-ce là cette faveur que vous avez à me demander ? Oui. Et ce secret, peut-on le connaître ? Naturellement. Comment espérer votre concours si je ne vous démontrais pas qu'il y a des raisons sérieuses pour cacher ce traitement à Lucille ? En l'entendant accentuer ces mots, « raisons sérieuses », je me sentis inquiète. Mais il venait me proposer, à moi qui n'avais jamais profité de la cécité de Lucille pour la tromper, lui, son futur mari, de lui cacher certaines choses. « Ce traitement offre donc des dangers ? » repris-je. « Nullement. » « Est-il certain que ce traitement amène la guérison dont le docteur a parlé à Lucille ?»« Infailliblement. »« Est-il connu de tous les médecins ?»« Oui. »« Pourquoi alors ne l'ont-ils pas proposé ?»« Ils ont eu peur de l'employer. » »« Comment ils ont eu peur ? Qu'est-ce que c'est donc ?»« Un simple médicament. » »« Un seul ? Ah ! Et comment l'appelez-vous ? » ?»« C'est du nitrate d'argent. » Je bondis et regardai Oscar tout effaré, puis je me laissai tomber sur une chaise. « Vous avez vu, s'écria-t-il, quelqu'un qui a pris du nitrate d'argent ? Et vous ? Oh, je sais parfaitement à quel prix j'obtiendrai ma guérison, répondit-il tranquillement. » Son calme, en disant ces paroles, me désarçonna. Depuis quand prenez-vous cette horrible drogue ? Lui demandai-je.
Depuis un peu plus d'une semaine.
Je ne m'aperçois cependant d'aucun changement dans votre personne.
Mon médecin m'a dit que bien des semaines se passent avant que l'altération de la peau s'opère.
Ces dernières paroles me rendirent un espoir momentané.
Vous avez encore le temps, Oscar, de changer de résolution. Je vous en conjure, au nom du ciel, réfléchissez bien avant qu'il ne soit trop tard.
Oscar eut un sourire plein d'amertume.
Tout faible de caractère que je suis, j'ai su cette fois prendre une résolution, dit-il.
Je jugeais ses paroles à un point de vue essentiellement féminin, et je me fâchais en songeant qu'il allait ainsi sacrifier ce teint qu'il avait si remarquablement beau.
Avez-vous perdu la raison, m'écriai-je, et oserez-vous me dire que vous allez, de propos délibérés, faire de vous-même un objet d'horreur pour ceux qui vous entourent et qui vous voient tous les jours ?
Oui, dit-il, car la seule personne dont je me soucie ne pourra jamais me voir.
Je compris alors la cause de sa résignation.
Je me demandais, en voyant la tournure que prenait la conversation, si Lucille lui avait fait part de l'aversion qu'elle éprouvait pour toutes les nuances foncées.
Non, je me rappelais même qu'elle m'avait expressément défendu de lui en souffler mot.
Je me souvins aussi que, dans les premiers jours de leur connaissance, elle lui avait demandé s'il ressemblait à son père ou à sa mère. Il lui répondit, et dans le courant de la conversation, il dit que son père était brun.
À ce mot, Lucille prit l'alarme.
Oscar, me dit-elle ensuite, parle de son père en termes si affectueux que je craindrais qu'il ne soit blessé de mon aversion pour les bruns. Veuillez donc, chère madame, ne lui en jamais dire un mot.
Peu s'en fallut que je ne le prévinsse tout de suite des conséquences fâcheuses qui pourraient résulter de son état, dans le cas où quelqu'une des personnes qui l'entouraient apprendrait à Lucille qu'il était défiguré.
Toute réflexion faite, je crus plus sage d'attendre et de le sonder sur les motifs qui l'avaient amené à prendre une décision aussi grave.
Avant de vous expliquer comment je pourrais vous venir en aide, je voudrais savoir si vous avez pris cette décision importante de votre plein gré. N'avez-vous consulté personne ?
Je n'avais pas besoin de conseils, me répondit-il brusquement. Je n'ai pas l'embarras du choix, et malgré mon caractère faible, j'ai pris une résolution sans hésiter, car j'ai jugé qu'il n'y avait pas d'autre alternative.
Était-ce l'avis des médecins ?
Oui, mais ils n'osaient me le dire. J'ai dû les y forcer. J'en appelle à votre conscience, leur ai-je dit. Dites-moi franchement s'il y a quelque espoir de guérison.
À votre âge, m'ont-ils répondu, il est possible que vous guérissiez.
Et dans combien de temps, s'il en est ainsi, pourrais-je être rétabli ?
Ils ne purent me fixer une date, mais se contentèrent de me dire que je guérirais à la longue.
Alors, leur répondis-je, je puis rester malade des années et attendre une guérison qui ne viendra peut-être jamais.
Les médecins voulurent éluder la question, mais je tins bon et les priai de me répondre si cette dernière supposition était juste.
Le docteur de Dymchurch regarda son collègue de Londres qui lui répondit
« Eh bien oui, monsieur, puisque vous le voulez absolument, je vous dirai qu'elle est dans la limite des probabilités.
Voyez la perspective que m'ouvrait cette réponse. Courir à chaque instant et partout où je vais le danger de tomber en convulsion, n'était-ce pas affreux ? Ne trouvez-vous pas cela épouvantable ?
Qu'aurais-je pu lui répondre ?
Considérez bien ma position, continua-t-il, au moment où j'allais me marier, le désappointement le plus amer qui puisse atteindre un homme m'atteint. Je touche presque à ce qui doit faire le bonheur de ma vie entière, et il m'est défendu d'en jouir. Tout est renversé du même coup, ma santé et mes espérances. Je ne puis, tant que je resterai dans l'état actuel, penser à la femme que j'aime. Vous figurez-vous bien tout ce que je souffre ? Et d'un autre côté, il y a un homme qui n'a qu'à s'asseoir à cette table et à griffonner deux lignes pour me guérir de cet affreux mal en quelques mois seulement, pour me permettre d'épouser la femme que j'aime et échanger la vie infernale que je mène contre un avenir céleste. Et quel est le prix de ce bonheur ? Un teint qui restera décoloré jusqu'à la fin de mes jours et que la femme que j'aime ne verra jamais.
Hésiteriez-vous un instant si vous étiez à ma place et auriez-vous le courage en voyant le docteur prendre la plume pour écrire son ordonnance, de lui crier « Arrêtez !» Je gardai toujours le silence. Mon entêtement, et je vous promets que les femmes sont de vrais mulets quand elles s'y mettent, m'empêchait d'avouer ce dont ma conscience m'indiquait la justesse. Il se leva avec l'exaltation fébrile dont il m'avait déjà donné un échantillon quand je l'avais irrité en le priant jadis de me dire qui il était. « Allons, répéta-t-il, en approchant du mien son visage rouge et enflammé, comme il avait fait lorsqu'il m'avait dit pour la première fois son vrai nom à l'oreille. Auriez-vous crié « Arrêtez !» Auriez-vous dit « Non !» Et comme il répétait cette question pour la troisième fois, une contraction hideuse se manifesta sur ses traits et il tomba à mes pieds. Comment aurais-je pu lui donner tort en face d'un pareil argument ? Qui, à sa place, eût hésité un instant à risquer une simple décoloration de la peau devant le spectacle qui s'offrait à mes yeux ? Le domestique d'Oscar accourut et m'aida à écarter les meubles de crainte d'accident. Il n'en a plus pour longtemps à souffrir comme cela, me dit le domestique qui voulait calmer mon émotion. Le docteur de monsieur a déclaré qu'avant un mois ou deux, le remède commencerait à produire son effet. Quant à moi, je n'osais rien dire. Je ne pouvais que me reprocher amèrement d'avoir peut-être provoqué, en le contrariant, l'affreuse répétition de la crise qu'il avait déjà eue devant moi. Je ne sais si le remède commençait à porter ses fruits, mais la crise dura peu et, au bout de 20 minutes, Oscar put se rasseoir en face de moi et reprendre la conversation. « Vous pensez alors que je ferai horreur quand ma figure aura pris sa teinte bleuâtre ?» dit-il avec un pâle sourire. « Ne vous ai-je pas fait bien plus horreur lorsque je me débattais sur le plancher ?» Je le priai de laisser de côté ce pénible sujet. « Dieu sait, lui dis-je, si vous m'avez convaincu que vous aviez raison malgré mon entêtement. Tenez, ne parlons que de votre guérison. Vous disiez tout à l'heure... Je disais que vous aviez sur Lucille une grande influence et que nous pourrions nous en servir en l'arrêtant s'il lui prenait envie de connaître les effets du remède que je prends et en lui laissant ignorer tout comme elle l'ignore actuellement. Et pourquoi cela? Pourquoi? Mais si elle le savait comme vous le savez, elle se sentirait saisie de la même terreur que vous avez manifestée tout à l'heure. Et comme vous, elle viendrait ici pour tâcher de me persuader de revenir sur ma décision. Je ne pouvais nier qu'il eût raison. J'aime tant Lucille, continua-t-il, que je ne puis rien lui refuser. Elle finirait par me fléchir, et à peine aurait-elle tourné le dos, que, me repentant de ma faiblesse, je reprendrais mon traitement. Comment envisager sans terreur une lutte pareille, faible et épuisée comme je le suis ? Pourrais-je m'y exposer après ce que vous venez de voir ? C'eût été en effet une cruauté inutile que de l'y exposer. Ne devais-je pas, au contraire, mitiger la douleur de ce sacrifice indispensable ? Je lui rappelai cependant une chose. « Souvenez-vous, lui dis-je, que nous ne pouvons espérer maintenir toujours Lucille dans l'ignorance de notre secret. Tôt ou tard, il arrivera à ses oreilles. » Oui, mais je veux le lui cacher tant que l'effet ne sera pas complet. Alors, quand rien au monde ne pourra y porter remède, je le lui avouerai moi-même. L'espoir de me voir guérir la rend si heureuse qu'il serait cruel de lui faire savoir d'avance à quel prix je l'achète. Non, je ne veux pas que la couleur de mon teint terrifie ma bien-aimée, et quant à ceux qui m'entourent, ils ne sont pas forcés de me regarder. Je n'ai qu'un désir, vivre loin du monde. » Le petit cercle de connaissances qui m'entourera s'habituera bien vite à ma figure et Lucille leur donnera l'exemple la première. Elle ne s'affligera pas longtemps d'un changement dont elle ne peut avoir connaissance ni par la vue ni par le toucher. Devais-je l'avertir ici du préjugé invétéré de Lucille et de la difficulté qu'il éprouverait à la réconcilier avec le changement survenu chez lui par l'effet du remède ? Peut-être avais-je tort de vouloir éviter à ce jeune homme, qui avait déjà tant souffert, un nouveau chagrin. À vous parler franchement, je n'en eus pas le courage, et j'espère bien ne jamais rencontrer celui qui l'aurait eu à ma place, car ce ne pourrait être qu'un homme sans cœur. Enfin, je quittai les sables, non sans avoir promis à Oscar de cacher le secret à Lucille, jusqu'à ce qu'il jugeât convenable de le lui révéler lui-même.